Semaine Sainte 2026.
Semaine Sainte 2026.
Table ronde. Éric Dupri.
À l'occasion de ce numéro spécial Semaine Sainte, comme vous le savez sans doute maintenant, Radio Présence s'associe à la paroisse étudiante de Toulouse durant ces quelques jours avant Pâques, en lui dédiant plusieurs émissions sur notre antenne. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière la vie quotidienne à la paroisse étudiante, les activités qu'elle propose, ainsi que ceux et celles qui les animent. Je souhaite aussi la bienvenue aux invités de ce numéro, tous acteurs de la vie quotidienne et des activités de la paroisse étudiante de Toulouse. Je salue le père Antoine Lavial, curé de la paroisse étudiante. Je salue aussi Myriam Courtois, en charge des cycles alpha à la Frat Saint-Marc, et Geoffroy Dehaye, parent impliqué dans cette même Frat Saint-Marc. Et je salue enfin Quentin Barlogy, membre de la Frat du Sacré-Cœur à Toulouse, puisqu'il va être question de la vie quotidienne et des activités de la paroisse étudiante dans cette émission. Nous allons commencer par parler de votre vie et de vos activités personnelles à la paroisse. En quoi consiste votre action et vos missions au sein de celle-ci? Eh bien, honneur aux dames, c'est Myriam Courtois qui va répondre la première.
Bonjour, je suis aussi frateuse à la paroisse, donc à Saint-Marc. Mon rôle à la paroisse, c'est d'organiser les parcours alpha. Ça se fait sur 9 séances. Et donc, le but du parcours alpha, c'est de permettre aux étudiants qui sont de plus en plus en manque de sens de créer des vraies amitiés et puis de répondre à des questions existentielles qu'ils peuvent avoir. Donc, de manière assez concrète, ils sont invités à Saint-Marc. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent le mieux accueillis possible. Et on va les installer à des tables où il y aura des étudiants, enfin, où ils vont être entre eux, mais avec un étudiant peut-être un peu plus avancé dans la foi qui est là pour... essayer de maintenir une bonne ambiance où ils se sentent à l'aise. Et donc, après un petit temps d'échange, on va faire un repas. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai recruté des étudiants de Saint-Marc qui sont géniaux. Du coup, on a vraiment des très bons repas. Je les remercie beaucoup. Et
Écoutez, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Je vais passer la parole à vos camarades qui sont aussi autour de cette table. Geoffroy Dehaye, en quoi vous intervenez en tant que parent de la Frat Saint-Marc?
Oui, bonjour Eric. Alors, nous, en tant que parents de frat avec ma femme et mes enfants, on est plus d'ailleurs une famille de frat que seulement des parents de frat, et on accompagne dans l'église Saint-Marc une frat d'étudiants dont Myriam fait partie, et on essaie d'être présent le maximum à leur côté pour les soutenir dans leur mission.
Et vous, Quentin Barlogy, quel est votre rôle à la frat du Sacré-Cœur à Toulouse? C'est un peu similaire?
Bonjour, moi j'ai un rôle différent. Moi, je suis en charge d'organiser ce qu'on appelle les grandes conférences, notamment, c'est-à-dire que chaque mois, minimum, il y a une grande conférence qui sont triplées, mardi, mercredi, jeudi, à des lieux différents pour qu'un maximum de personnes puissent y assister et qui font pleinement partie du parcours de catéchuménat. Je suis aussi en charge des annonces à la Dorade, ce qui est un rôle sympa. Et évidemment, en tant que frateux, on sert aussi à beaucoup d'autres choses, mais je pense qu'on en reparlera.
Oui, bien sûr, on va rentrer dans le détail de toutes vos activités et des missions que vous avez accepté d'assumer. Alors vous, Père Antoine, on se doute que votre mission principale recouvre tout ce que peut faire un prêtre dans une paroisse, mais je suppose qu'à la paroisse étudiante, il y a des petites spécificités, pour ne pas dire de grandes spécificités.
Oui, il y a des petites spécificités. En fait, je n'ai pas de la vie ordinaire d'un prêtre, puisqu'un prêtre, normalement, ça baptise des enfants, ça enterre des personnes âgées.
Ça célèbre des messes.
Ça célèbre des messes. Alors, ça, je continue de le faire, mais c'est vrai que le baptême de petits-enfants et la pastorale des funérailles, je la connais très peu. Nous, c'est plutôt une pastorale des jeunes adultes, avec une spécificité aussi étudiante qui est une pastorale de la vie, avec un jaillissement de vie permanent, qui est source de grande espérance. Vous savez, il y a certains lieux dans l'église où malheureusement, la vie disparaît. On peut avoir des églises qui ferment, des clochers qui perdent un certain nombre de fidèles. Alors je compatis à mes frères prêtres qui vivent ça, mais ici on vit tout l'inverse. On vit un afflux de personnes qui demandent la foi, qui demandent la vie éternelle et qui veulent s'impliquer dans le service de la mission de l'église.
On va parler de la vie quotidienne à la paroisse étudiante de Toulouse. Qu'est-ce qui se passe lors d'une journée, ou plutôt peut-être d'une semaine ordinaire à la paroisse étudiante?
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de semaine ordinaire, mais cela dit, si on doit, sans trop entrer dans le détail, le lundi, il y a beaucoup de répétitions de chorale, notamment, et c'est un moment important pour la paroisse étudiante, parce que c'est un peu la paroisse étudiante se tourne vers elle-même, disons, le lundi. Les frateux se rassemblent entre eux pour un temps de conseil où ils reçoivent une formation pour grandir dans leur vie de disciples du Christ. Enfin, les frateux ne sont pas des larbins de la paroisse, ils ne sont pas juste des serviteurs. Bien sûr, on est tous serviteurs, Mais donc, les frateux sont ceux qui vivent ensemble pendant un an au service de la paroisse en parallèle de leurs études. Et ils ont cette soirée-là particulière pour grandir dans l'intelligence de la foi et grandir dans le don d'eux-mêmes à la suite du maître, à la suite du Christ. Et donc c'est ce temps où le lundi, c'est cette journée où la paroisse prend soin de vous faire grandir particulièrement ceux qui sont impliqués dans la paroisse. Le mardi, la semaine commence un peu plus, donc on a toujours des rencontres, des nombreux groupes, des aumôneries, toujours les chorales qui continuent de se rencontrer, le chemin neuf qui se rencontre. Et puis, mais le mardi, il y a surtout les parcours alpha du Sacré-Cœur, enfin surtout aussi, il y a les parcours alpha du Sacré-Cœur qui est notre porte d'entrée dans la vie sacramentelle, notre porte dans la vie de la foi. Le mercredi et le mardi, jour important, c'est aussi le jour où la gouvernance de la paroisse étudiante se rassemble cette fois-ci pour porter la vision de la paroisse. Le mercredi, toujours les aumôneries qui continuent dans l'aumônerie de Jean Jaurès qui se réunit, toujours des chorales qui se réunissent, des groupes de prière. Mais c'est le jour, le mercredi, du parcours alpha de Saint-Pierre cette fois-ci, pour tous les étudiants qui sont plutôt en centre-ville. Le jeudi, toujours la même chose, des chorales se réunissent, des aumôneries se réunissent, mais c'est le jour du parcours alpha de Saint-Marc cette fois-ci. Et le vendredi, ça devient un tout petit peu plus calme. Il y a toujours des groupes qui se réunissent. Là, c'est plutôt, on conseille que c'est plutôt les groupes du type Exodus, que vous avez reçus sur cette antenne il n'y a pas longtemps, ou Virtus, Magnify. Et enfin, les week-ends. Alors, les week-ends, on a toujours des week-ends à droite, à gauche, que ce soit des week-ends de frat, des week-ends du catéchuménat, des week-ends en montagne, des week-ends d'aumônerie parfois, les week-ends des chorales. Et le dimanche soir, eh bien, c'est le sommet de notre semaine, où l'ensemble des étudiants convergent ou bien vers Saint-Marc à Rangueil, ou bien vers la Dorade en centre-ville de Toulouse, pour célébrer la mort et la résurrection du Christ.
Si je comprends bien, il n'y a pas un jour où ce n'est pas intense. C'est tout le temps intense.
Ah, il est plus ou moins intense. Le lundi est plus calme, mais c'est toujours intense.
On redémarre la semaine.
Exactement.
Vous parliez de la gouvernance de la paroisse étudiante. Qui est membre de cette équipe de gouvernance, celle qui vous entoure, j'imagine? Bon, vous vous coordonnez, bien sûr, mais vous devez vous appuyer sur beaucoup de personnes.
Alors, je m'appuie sur un petit nombre de personnes qui eux-mêmes s'appuient sur un petit nombre de personnes qui eux-mêmes s'appuient sur un petit nombre de personnes. Et à la fin, ça fait beaucoup de personnes. Mais autour de moi, j'ai 7 personnes. Je ne prends aucune décision sans eux. Et ils ont l'autorisation, toute l'autorisation de me bousculer, de me challenger. Et donc, parmi eux, il y a différents profils. Il y a un prêtre, un frère dominicain, qui s'occupe notamment, qui accompagne auprès de moi toute la dimension de la formation au sein de la paroisse étudiante et notamment les grandes conférences. Il y a une maman de frate, comme on dit, qui accompagne les familles de frates et les frates, qui trie. Il y a une personne qui est en charge du suivi de la formation des responsables, qui s'appelle Laure, qui est coach dans la vie. Il y a un garçon qui accompagne les petits groupes de la paroisse étudiante, Geoffroy. Il y a un autre garçon qui suit les demandes de sacrement, qui s'appelle Étienne. Et enfin, il y a un garçon qui s'occupe des parcours alpha, qui est Stevie.
Donc une équipe très structurée.
Une équipe assez structurée.
Ouais, très structurée et en qui manifestement vous avez toute confiance. Il le faut sans doute, hein, parce que vous ne pourriez pas, je pense, faire tourner cette paroisse étudiante sans vous appuyer sur des personnes solides. Combien il y a de clochers qui sont reliés à la paroisse étudiante?
On a deux clochers qui sont affectés à la paroisse étudiante. Donc Saint-Pierre des Chartreux depuis 2011 et Saint-Marc à Rangueil depuis 2023. Et ensuite, devant l'afflux d'étudiants, nos clochers sont trop petits. Heureusement. Et donc, la paroisse cathédrale met à notre disposition l'église de la Dorade le dimanche soir et pour nos gros événements. Et la paroisse Saint-Nicolas-Sacré-Cœur met à notre disposition l'église du Sacré-Cœur, qui est dans le quartier de Pas-de-Deux à Toulouse, pour accueillir une frate et organiser des événements, notamment le mardi soir.
Vous évoquez les aumôneries, il y en a combien? Une quinzaine?
Une quinzaine d'aumôneries, oui. Donc, sur les trois grandes universités, les grandes écoles d'ingénieurs et ensuite dans des écoles plus petites, l'Institut catholique, l'Institut d'Imérac, l'école de Veto, l'école de météorologie, l'école de chiropracteur.
Et puis, il y a des groupes aussi.
Il y a des groupes.
Il y en a une bonne soixantaine, je crois.
Une soixantaine de groupes. Alors, il y a des groupes et des petits groupes. Les groupes, ce qu'on appelle les groupes de pastoral. Donc, on a 7 chorales, 3 orchestres, l'Emmanuel, le Chemin Neuf. On a des groupes de maraudes. On a 4 associations qui font des maraudes dans le centre-ville de Toulouse. Donc, tous les soirs, on organise des maraudes avec l'Ordre de Malte, Yann Lajoie, la Société Saint-Vincent-de-Paul. Beaucoup de groupes qui touchent à la fois la charité, la prière, l'évangélisation, la formation.
Et je crois que vous avez quoi, 200 bénévoles qui doivent...
Oui, à peu près, à peu ouais, près tout compris. Ouais, ouais.
Et donc qui s'investissent dans les actions dont vous venez de parler, donc la charité, l'événementiel aussi.
Oui, on a un petit peu d'événementiel. Ouais. Enfin, on essaie de passer de plus en plus d'une pastorale d'événementiel à une pastorale de la croissance. L'événementiel, il crée une émotion d'honnêteté qui est bien, qui est bon, mais qui peut être extrêmement épuisant. Alors qu'au contraire, on veut plutôt faire grandir les personnes sur le temps long. Donc, on réduit un peu nos événements pour rentrer plus dans une dimension de processus, avec les parcours alpha, avec les petits groupes d'études bibliques, les grandes conférences.
Alors, je pensais une dimension importante dans une association qui finalement est aussi vaste que la vôtre, la communication. Est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent de la communication de la paroisse étudiante ?
Alors, on est une équipe com, oui, qui est composée de 4 personnes. Non, beaucoup plus de 4 personnes, puisqu'on a une responsable com, qui est responsable de la communication interne et de la communication externe, et qui a une petite équipe. Donc, nous avons 2 graphistes, un vidéaste, une quinzaine de photographes.
Les étudiants que vous recevez à la paroisse étudiante, ils appartiennent à quelle tranche d'âge ? Ça va de quel âge à quel âge à peu près ? C'est assez resserré ou c'est plus large qu'on pourrait le croire ?
Alors, c'est assez resserré. C'est plutôt du 17-23 ans. 17 pour les plus jeunes, hein, sur ces 18-23 ans. Donc, ces étudiants qui sont en général en licence, en master. Il y a quelques doctorants. Mais en fait, les problématiques auxquelles on s'attache au sein de la paroisse étudiante, ce sont des problématiques typiquement étudiantes et qui concernent la génération Z dans leurs études, dans la recherche de sens, dans la projection professionnelle, etc.
Faut dire, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, la génération Z, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est. Alors, mais c'est ceux qui sont nés un petit peu après 2000.
Voilà, c'est ça, c'est 2002, ceux qui sont nés entre 2002 et 2010, même 2015. Maintenant, ceux qui sont en train de naître maintenant sont la génération alpha.
Oui.
Et donc, chaque génération a sa spécificité, a ses recherches, ses attentes propres. Et la génération Z est une génération qui est blessée, qui est marquée, qui est en profonde recherche de sens.
C'est une génération qui a été marquée, je pense, par la période Covid.
Très marquée par la période Covid. Et je fais une parenthèse, mais on constate même que les étudiants qui n'ont pas passé le bac, hein, il y a un certain nombre, eh bien, sont en... Alors, je ne sais pas si on doit en parler ici, mais c'est un vrai sujet dans la paroisse étudiante. Ceux qui n'ont pas passé le bac, pour beaucoup, sont en état d'échec scolaire à l'université. Moi, je reçois beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à persévérer, qui n'arrivent pas à persévérer dans leurs études et qui sont en constante recherche de nouvelles études. Et donc, il y a un certain nombre. Et ce qu'ils ont de commun entre eux, c'est qu'ils n'ont pas passé le bac. Moi, ça m'interroge un peu. Donc, c'est une génération Z qui est assez marquée par ces questions liées au Covid, par un vide existentiel, par les problèmes d'isolement, parfois des problèmes d'addiction.
Alors ma question va peut-être vous paraître saugrenue, celle que je vais vous poser maintenant, mais parmi les jeunes qui viennent à la paroisse ou participent à ces activités, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, mais qui viennent ou par curiosité ou pour suivre des amis qui, eux, sont croyants et chrétiens ?
Est-ce qu'il y en a sans doute qui s'investissent dans la paroisse ? Je ne pense pas, non. Nos dimanches, il y a toujours des personnes qui viennent pour la première fois dans une église. Ils vont peut-être pas revenir, ils vont peut-être revenir. Mais en fait, on reste une paroisse. Et donc, dans une paroisse, on vit entre frères et sœurs chrétiens. On accueille des personnes qui demandent la foi de l'Église. Mais voilà, j'ai jamais rencontré de personne qui me dit « Moi, je suis pas chrétien, mais je viens dans votre Église. »
Cela dit, on sait que chaque année, il y en a qui entrent sur le chemin qui mène au catéchuménat.
Bien sûr. Alors là, on a des catéchumènes, c'est-à-dire des gens qui demandent la foi de l'Église. On en a,
mais qui sont déjà sur le chemin. Donc.
Qui sont déjà sur le chemin. Donc cette année, on a 250 catéchumènes qui demandent ou bien le baptême ou bien la confirmation. On estime que ça représente 1/5 de nos assemblées dominicales.
C'est un chiffre qui, comme partout ailleurs, est en forte augmentation, les catéchumènes à la paroisse étudiante.
Oui, qui est doublé chaque année. Oui.
Chaque année depuis
Depuis 3-4 ans.
Oui. Donc ça suit vraiment le mouvement,
national. Même international.
Même international, on le constate bien sûr. Vous savez combien d'étudiants viennent à la paroisse ou y passent au cours d'une année ?
Oui, on estime à 2500 étudiants qui fréquentent la paroisse étudiante.
Et c'est stable ça ?
C'est stable, oui. Enfin, ça augmente un peu.
Ça a tendance à augmenter un petit peu.
Ça a tendance à augmenter.
Est-ce que vous avez beaucoup d'étrangers ? Quelle nationalité vous avez à la paroisse étudiante ?
Alors, il y a pas mal de nationalités. Alors, évidemment, il y a la très grande majorité est française, mais on a deux groupes en langue étrangère. Donc, on a le groupe Hakuna, qui rassemble les hispanophones, qui se réunissent une fois par mois à Saint-Pierre-des-Chartreux pour un temps de prière en espagnol. Et il y a le International Group, qui se rassemble également une fois par mois, et là, qui rassemble des personnes de toutes nationalités.
Et où c'est l'anglais là, qui domine,
là, c'est l'anglais, ouais. Tout est en anglais. Les enseignements sont
en anglais. Même si j'imagine que la plupart des étudiants qui viennent à Toulouse balbutient un petit peu de français quand même, au minimum. Pas toujours.
Pas toujours.
Donc ça vous oblige à la paroisse étudiante à avoir des polyglottes.
Ça nous oblige
à vous-même.
Bah, mais... les étudiants sont polyglottes puisque les études maintenant sont beaucoup en anglais.
Donc vous communiquez en anglais, je suppose,
lorsque
vous avez affaire à quelqu'un.
Oui, bien sûr. Même on a donc les parcours alpha sont diffusés en anglais sous-titrés français. Pour deux raisons. D'abord, pour que ce soit plus facile, sans avoir un doublage trop américanisant. et également avec la possibilité d'accueillir des étudiants étrangers, notamment la Frat du Sacré-Cœur, enfin, le parcours alpha du Sacré-Cœur. Ça a bien servi le premier parcours alpha pour un étudiant qui parlait très peu français.
Et concernant les messes destinées aux étudiants, qu'est-ce qu'il en est de leur fréquentation? Est-ce que vous avez toujours beaucoup de monde?
Toujours beaucoup de monde, que ce soit en semaine ou le week-end. Le week-end, on estime à 900 étudiants qui fréquentent les deux clochers, à peu près. Et en semaine, on a, c'est assez variable sur les deux clochers, mais Saint-Pierre de Chartreux, qui est le clocher historique et vraiment au cœur du T1, de l'Université Toulouse 1, on a entre 80 et 120 personnes. Et à Saint-Marc, ça varie entre 15 et 50.
Et est-ce que chaque année, il y a des étudiants qui viennent vous proposer leurs services ou des idées d'activité? Est-ce qu'il y a une dynamique aussi autour de ça?
Alors, il y en a qui proposent leurs services, ouais, mais nous n'avons que 4 outils. Et on tient à conserver ces 4 outils pour éviter de s'éparpiller. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent au service, mais de ces 4 outils-là et de la croissance de leurs frères. Donc, ils s'investissent ou bien dans les parcours alpha, ou bien dans les grandes conférences, ou bien dans les petits groupes, ou bien sur ce qu'on appelle l'expérience du dimanche, donc la messe et ce qui tourne autour de la messe.
Je crois qu'on a fait un petit tour de ce qu'est la vie quotidienne, de ce que sont les activités à la paroisse étudiante de Toulouse, même si on n'a sans doute pas été exhaustif. On va faire une pause dans cette émission avant de parler des activités que vous proposez, notamment de celles que vous encadrez ou organisez les uns et les autres autour de la table de ce studio. Pause en musique et en ce vendredi saint, nous allons la faire en écoutant un extrait de la bande originale du film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. Elle a été composée par Peter Gabriel. It is accomplished, c'est accompli. We'll be right back. seconde partie de ce numéro consacré à la paroisse étudiante de Toulouse. Avant la pause, nous avons fait un tour d'horizon de ce qu'est la vie quotidienne à la paroisse étudiante et on a pu constater à quel point elle était intense, riche et variée. Nous allons maintenant nous intéresser aux activités qu'elle propose. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Parlons d'abord des activités dans lesquelles vous êtes investis personnellement les uns et les autres. Alors, on va commencer avec les cycles et parcours alpha, hein, Myriam Courtois. Vous avez déjà tout à l'heure un petit peu ébauché ce qui s'y passe, ce que sont aussi les objectifs de ces parcours. Mais qu'est-ce que vous proposez à ceux qui s'y engagent, à ceux qui les intègrent?
Alors, nous, la population qui demande principalement, donc, c'est soit des catéchumènes, soit vraiment des étudiants un peu perdus. Il y a aussi des gens qui sont invités. Donc, on a eu quelques étudiants qui étaient athées ou agnostiques qui ont été invités et qu'il y en a qui ont aimé et qui sont restés. Et donc, le parcours alpha, nous, ce qu'on propose, enfin, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent aimés et par là, apprennent à aimer le Christ. Parce que ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment en aimant les gens qu'ils vont se sentir à l'aise et enfin, c'est par là que passe la conversion. Donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est de venir, de partager un repas convivial qui sont à des petites tables entre 6 et 8, avec un leader de table, donc quelqu'un d'un peu plus expérimenté dans la foi, qui est là justement pour mettre un cadre chaleureux, pour si quelqu'un va trop loin dans un sujet, arrêter, enfin, faire en sorte de donner un peu la parole à tout le monde, pour que tout le monde se sente bien. Et après ça, on passe une vidéo donc, qui est faite par l'organisation officielle Alpha. Ça va être sur plusieurs thèmes. Donc par exemple, la première vidéo, c'est « Quel est le sens de la vie ?». Ensuite, on va proposer un petit temps d'échange pour que les gens puissent un peu partager ce qu'ils ont pensé de la vidéo. On a d'autres vidéos, par exemple, qui est Jésus? Pourquoi Jésus est-il mort pour nous? Comment Dieu nous guide-t-il? Donc ça s'avance assez progressivement. Et donc ensuite, c'est suivi de temps d'échange. Et c'est très fraternel. Les étudiants, ils aiment beaucoup. Enfin, nous, on a vraiment des gens qu'on voit se transformer petit à petit, revenir chaque semaine, qui sont très, très joyeux. Moi, je suis sur mon deuxième parcours alpha. Donc j'en ai fait un premier qui s'est bien passé, on a lancé un deuxième, on va en lancer un troisième après celui-là. Et par exemple, ça devait être que 9 séances. Et en fait, les étudiants m'ont supplié de faire une 10e séance. Donc on a dit oui, on fait une 10e séance, mais parce qu'ils sont trop heureux, ce groupe. Et donc le but, c'est qu'au bout de 6-7 séances, on leur propose de partir en week-end ensemble.
C'est donc, un week-end de retraite.
Oui, c'est un week-end...
Je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais...
C'est pas une retraite classique où dans le sens où on est là, on se repose et tout. Là, il y a quand même pas mal d'activités. C'est un week-end Saint-Esprit, enfin rencontre du Saint-Esprit.
Qui se passe où ? Il y a un lieu, c'est toujours le même ou vous changez ?
Le premier, on est parti à Lourdes, au village des jeunes. Et là, on est parti à Rionnette, dans la petite abbaye de Rionnette, sous Carcassonne. C'était génial. Et le but, c'est de proposer aux participants de rencontrer l'Esprit-Saint. Donc, on va avoir un petit temps d'enseignement le matin. Pareil, un temps convivial, on fait le repas ensemble, on mange ensemble. Et des petites activités d'intégration, des jeux. Et ensuite, le soir, on fait une veillée de prière, une veillée adoration et prière pour demander à l'Esprit-Saint de venir dans le cœur des étudiants. Et pendant ce temps, on fait des prières des frères, donc où il y en a qui prient pour les autres. Et c'est vraiment très beau. On est sur des gens qui ont parfois été loin de la foi, qui reviennent progressivement, ou même qui ne sont pas du tout dans la foi. Et on se retrouve à faire des veillées d'adoration qui dure 1h30 et limite quand on arrête, les gens sont mécontents. Hein. Ils restent plus dans l'église pour prier.
Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est que vous veillez avant tout à ce que chacun trouve sa place.
C'est ça. On a des gens qui viennent, qui sont parfois fragiles, qui se sont sentis rejetés durant leur vie. Et nous, le but, c'est vraiment qu'ils voient ce que c'est l'église, enfin, la fraternité. Par exemple, l'abbé me racontait à une occasion qu'il y avait une jeune fille qui était venue à Alpha et qui s'était sentie rejetée toute sa vie. Et en arrivant à la fac, pareil, elle s'était à nouveau, elle n'avait pas réussi à trouver sa place et qu'à Alpha, elle avait réussi à se faire des vrais amis et ils mangent ensemble maintenant à l'université aussi. Donc, on voit que les gens trouvent vraiment leur place.
Mais merci pour ce témoignage et cette présentation. On va parler maintenant des frates et des foyers. Donc, la frate Saint-Marc, la frate du Sacré-Cœur à Toulouse avec Geoffroy et Quentin. Alors, on va commencer avec vous, Geoffroy. Qu'est-ce qui se passe dans ces frates, dans la frate en tout cas que vous fréquentez, la frate Saint-Marc, comment ça fonctionne et avec quels objectifs?
Alors il y a effectivement à la paroisse étudiante, comme l'a dit le père Antoine, il y a 4 frates. Moi je fais partie de la frate Saint-Marc, donc on est avec ma femme et mes enfants la famille de cette frate.
Alors, quand on dit on est la famille de cette frappe, c'est la famille de référence.
Oui, c'est ça.
Vous êtes des référents.
C'est vrai que ça peut poser question. Voilà, c'est ça. On est une famille référente et qui accompagnons donc les 5 étudiants, en l'occurrence de la frappe Saint-Marc, à la fois dans la mission, puis même très concrètement dans leur installation, dans leur logement, puisqu'ils sont en colocation à Saint-Marc. Mais je crois aussi qu'on a un rôle d'accompagnement, pas forcément spirituel, mais en tout cas peut-être moral, pour que ces étudiants qui traînent finalement surtout avec des jeunes aient aussi une référence d'une famille chrétienne, comment une famille chrétienne peut vivre aussi au quotidien. Et surtout, donc, le Père Antoine expliquait tout à l'heure ces journées du lundi, mais ces soirées qu'on appelle parfois un peu pompeusement le chapitre, mais où on se réunit, donc Hortense, ma femme, moi et les étudiants pour faire le point de la semaine, faire cet enseignement, ce topo pour...
Alors, voilà, c'est des groupes de quoi, 8, 10 étudiants, les frates?
Alors, ça dépend, il y a un peu tous les nombres. Nous, on est 5, en l'occurrence à Saint-Marc, à Saint-Pierre, ils sont 6, je crois. Et vous, au Sacré-Cœur, vous êtes...
On est 7.
Vous êtes 7, donc il faut que ça reste un petit groupe pour que les échanges puissent être...
Oui, parce que je crois qu'en plus, chacun a une fonction dans le groupe.
Oui, c'est ça. Chacun
suivant ses compétences, ses aspirations aussi, j'imagine.
Chacun des frateux tout à fait a une mission qui rejoigne un peu les grands aspects de la paroisse étudiante, donc le parcours alpha, donc Myriam qui est là, les grandes conférences, la messe du dimanche, etc.
Alors, à la frate du Sacré-Cœur, Quentin, ça se passe comment? C'est le même modèle exactement ou chacune peut avoir ses petites spécificités là encore?
C'est le même modèle dans toutes les frates. Après, nous, on a quand même une petite spécificité qui est que on a un clocher qui est partagé avec une paroisse normale, qui est même principalement la paroisse Sacré-Cœur-Saint-Nicolas, et qu'on utilise les mardis soirs, où on fait les messes étudiantes, et les conférences assez régulièrement aussi. Et donc, on essaie de rendre aussi service comme on peut à la paroisse du Sacré-Cœur. Mais sinon, oui, les frates fonctionnent à peu près toutes pareilles. Il y a 5 différents rôles dans les frates. Il y a ceux qui vont se charger de la liturgie, ceux des grandes conférences, ceux des parcours alpha, ceux qui vont être en charge de tout ce qui est opérationnel, donc la sono, etc. Et l'accueil, évidemment.
Votre rôle, c'est plutôt les conférences?
Moi, c'est plutôt les conférences et effectivement les annonces en début et fin de messe pour tenter de mieux accueillir les personnes à la paroisse.
Alors, ça veut dire que vous les organisez, les conférences, ou vous choisissez des thèmes ou...
Alors, les thèmes sont choisis et les intervenants sont choisis par le frère Maxime, qui fait partie donc du conseil de gouvernance. Nous, on est en charge beaucoup plus du côté pratique, donc les organiser physiquement, s'occuper un petit peu de la communication aussi.
L'accueil de
ceux qui arrivent, s'occuper de permettre un petit apéritif avant pour que tout le monde puisse se rencontrer, les messes qui se passent, et sur place, présenter l'intervenant, parfois lancer les prières et s'occuper du mieux qu'on peut pour que tout se passe bien.
Vous, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement pour vous investir dans une frate?
Principalement l'envie de rendre quelque chose, parce que j'ai moi-même été baptisé il y a 2 ans à la paroisse étudiante, à la Dorade. J'ai fait tout mon catéchuménat et un parcours alpha à la paroisse étudiante. Donc il y a quand même, on va dire, en moteur principal, cette volonté de rendre, parce qu'avant je ne m'appliquais pas. Voilà, c'est ça. Et de pouvoir moi aussi essayer de...
Vous rendre utile, comme on dit.
C'est ça, exactement.
Je me demandais comment les familles qui étaient référentes dans une frate étaient choisies ou se proposaient. Comment ça se passe, Père Antoine? Vous les démarchez, vous faites un appel d'offres?
Je ne fais pas un appel d'offres, je les démarche, je fais un appel personnel.
Du pied plutôt.
Du pied. On a le souci d'avoir des familles différentes. Enfin, en fait,
avec des profils différents.
Des profils différents. Et donc, vous avez compris, avec les frateux, les étudiants qui vivent dans les frates, partagent des fiches de poste, disons, ou des rôles avec des frateux d'autres frates. Donc, il y a à la fois une dimension fraternelle au sein d'une frate. Et ils appartiennent également à un autre groupe, avec des homologues d'autres frates, quelque chose de similaire avec les familles. De la même manière que les frateuses sont différents, ceux qui portent la même fiche de poste, les familles sont très différentes les unes des autres, avec plusieurs profils d'âge, nombre d'enfants qui varient. Mais on se base sur 4 critères. Il faut qu'elles soient fidèles à la foi de l'Église et qu'elles aient envie d'être fidèles à la vision de la paroisse étudiante. Qu'elles soient disponibles, un petit peu disponibles, pour servir la mission à la paroisse étudiante, qui est une forme de contagion missionnaire chez elle, et qu'elle puisse, que ses familles, enfin comme toute personne, hein, puissent se laisser enseigner par les étudiants, qu'elle puisse enseigner les étudiants, enfin qu'il y ait ce feeling-là. Et puis, elles sont aussi choisies dans la prière, et toutes les familles qu'on a là ont été choisies dans la prière. Dans la paroisse étudiante, on a cette grande chance d'avoir une proximité spirituelle avec Claire de Castelbajac, cette jeune fille morte en honneur de sainteté, dont le corps repose à Boulogne. Et les quatre familles que j'ai appelées depuis que je suis à la paroisse étudiante ont toutes été appelées à la fin d'une neuvaine à Claire de Castelbajac. Parce que je considère que Claire les a vraiment mis sur mon chemin. Elle bénit la paroisse étudiante, donc je pense que c'est le bon choix.
Geoffroy, qu'est-ce qui vous a décidé avec votre épouse, hein, parce que c'est, je suppose, une décision de couple,
tout à fait.
De répondre à l'appel du père Antoine pour vous investir dans une frate?
Écoutez, bonne question. On connaissait le père Antoine, on s'était rencontrés quand il était séminariste et on s'entendait très bien. Et donc on avait vraiment envie déjà de lui faire confiance. Je crois que vraiment il y a eu simplement un abandon et puis...
Vous êtes senti un petit peu appelé, on peut peut-être dire ça, je
ne sais pas. Oui, si on s'est senti appelé, mais... et puis en même temps, voilà, c'était aussi une continuité assez logique dans nous, notre vie familiale, ce qu'on avait pu faire dans d'autres paroisses auparavant. Voilà, on avait envie de se mettre au service, mais auprès de cette population qu'on ne fréquente pas du tout. Donc ça, c'était un petit peu le saut aussi quand même dans l'inconnu, puisqu'en fait, on est étudiant, puis après on est parent, et on ne voit plus d'étudiants jusqu'à ce que nos propres enfants le soient. Donc il y a toute une période de la vie où on n'a pas accès à ces jeunes, et on a découvert qu'il y a des choses vraiment extraordinaires.
Et avec le recul maintenant, qu'est-ce que ça vous apporte d'être la famille référente de la frate Saint-Marc?
Énormément. Alors je pense que tout le monde dans l'église aujourd'hui est touché. On n'a pas beaucoup parlé des catéchumènes, mais tout le monde dans l'église est beaucoup touché par cet afflux. Mais c'est vrai qu'à la paroisse étudiante, je trouve que c'est particulièrement marqué. Et nous, tous ces jeunes qui se posent des questions, puis même ces jeunes qui s'investissent, que les frateux, c'est quand même des étudiants qui se mettent dans une collotte avec des gens qu'ils ne connaissent pas pour rendre des services qui sont aussi très logistiques. Enfin, nous, ça nous édifie, ça nous étonne chaque jour, donc vraiment, ça nous fait grandir.
Je pense que ça doit être très émouvant, effectivement, et Quentin en est l'exemple même, catéchumène d'abord, et puis qui derrière s'est investi pour rendre ce qu'on lui a donné.
Oui, absolument.
Alors, Père Antoine, il y a bien d'autres activités proposées par la paroisse étudiante, divers événements au cours d'année, et aussi des conférences. Quentin nous en a parlé à la frate du Sacré-Cœur. Est-ce qu'il y a certains événements que vous souhaitez mettre en avant? Des événements qui ont lieu au cours de l'année, qui sont récurrents par exemple.
Alors, on a trois gros événements dans la paroisse étudiante. Donc on a les événements de rentrée qui sont devenus un festival, donc, qui s'appelle le Novus Festival depuis l'an dernier, qui est un festival sur 5 jours qui a pour but de lancer l'année, de créer un sentiment d'appartenance à la paroisse étudiante.
De faire se rencontrer aussi.
Voilà, de faire se rencontrer, créer des amitiés authentiques. On insiste beaucoup sur Myriam a insisté dessus, mais on insiste beaucoup sur l'amitié authentique comme lieu nécessaire pour la croissance de la foi. C'est aussi un lieu pour découvrir l'engagement et la nécessité de s'engager et pour nous de diffuser la vision de la paroisse étudiante pour que les étudiants adhèrent à la raison d'être de la paroisse étudiante. Il y a évidemment ce qui est le sommet de l'année liturgique, hein, enfin ce qui est le sommet pour toute l'Église, sur la Semaine Sainte, du lundi saint au dimanche de Pâques. Pour nous qui sommes une paroisse catéchuménale avec autant de catéchumènes, bien, cette semaine elle a un goût particulier parce qu'il y a tous ces étudiants qu'on a accompagnés jusqu'à ce jour où ils vont être plongés dans la cuve baptismale. C'est énormément de logistique et tous nos regards sont tournés vers cette semaine-là, en fait. Et puis, il y a la session Exode, qui est une session de 3 jours qui a lieu à Lourdes, de laquelle la patiente est partenaire et à laquelle il participe. On en sort, là, c'était il y a quelques semaines, où beaucoup d'étudiants participent et qui créent au milieu de l'année, au cœur du carême, un renouveau de la foi pour recommencer le combat et se relancer dans la vie spirituelle.
On parlait des cycles de conférences. Alors, je crois que c'est nouveau aussi, c'est ça, la paroisse étudiante.
C'est vous qui avez lancé
saison de conférences. Est-ce qu'elles ont un objet bien précis? En tout cas, elles traitent de sujets bien précis. Et qui les propose? Qui intervient?
Alors, elles traitent d'objets extrêmement précis. Donc, on a réfléchi à avoir un cycle en 2 ans, pour couvrir sur 2 ans l'ensemble des thèmes du catéchisme de l'Église catholique, de sorte que tous les étudiants aient, d'une certaine manière, lu tout le catéchisme de l'Église catholique en quittant la paroisse étudiante. Et on l'aborde de manière différente. Donc ces conférences, elles ont 2 objectifs. Un objectif catéchétique pour ceux qui découvrent la foi et un objectif théologique pour ceux qui veulent approfondir leur foi. Donc c'est un énorme enjeu dans le cahier des charges du prédicateur, d'à la fois parler à ceux qui avec un vocabulaire assez simple et en même temps donner une matière à réflexion pour ceux qui veulent contempler la vérité avec leur intelligence. Donc ces conférences, elles ont lieu 1 fois par mois, à partir de l'an prochain, parce qu'on est elles ont lieu 2 fois par mois.
Ça se passe rue Balade ?
Ça se passe, donc ces conférences, elles se sont répliquées 3 fois, au Sacré-Cœur le mardi, d'accord, le mercredi rue Balade à Saint-Pierre, et le jeudi à Rangueil à Saint-Marc. Donc, c'est le même prédicateur qui fait 3 fois la même conférence pour atteindre le plus grand nombre d'étudiants possible. Et bien donc en 2 ans, on a traité des sujets dogmatiques sur le contenu de notre foi, des sujets moraux, on a traité de la théologie du corps, des sujets plutôt sacramentels, Enfin, voilà, on a vu un panel, on a touché du doigt l'ensemble de la théologie de l'Église et de la tradition de l'Église.
Et qui sont les intervenants
Ils sont divers. Il y a des dominicains. Dans les futurs intervenants, il y aura des familles, religieux, chanoines de la grâce et des prêtres diocésains.
Et puis, moment très important aussi, mais ça c'est chaque semaine, ce sont les homélies du dimanche.
Et il y a les homélies du dimanche qui reviennent chaque dimanche, oui. Je vous ai dit, hein, que nous avons, et je pense que les auditeurs de Radio Présence vont l'entendre pendant toute la Semaine Sainte, nous avons quatre outils principaux, c'est-à-dire les parcours alpha qui sont le lieu de rencontre avec le Seigneur et le point de contact de la paroisse étudiante avec le monde, les petits parcours d'études bibliques, enfin les petits groupes d'études bibliques qui sont des groupes de fraternité et de maisonnée, les grandes conférences et ce qu'on appelle l'expérience du dimanche. Le fait est que la plupart des étudiants n'auront pas 50% de participation à l'ensemble de nos activités sur la population du dimanche. Et donc le dimanche est le lieu où on s'adresse à la paroisse étudiante. Et c'est le moment où on s'adresse à une génération, en fait, à la génération Z. On insiste beaucoup sur la beauté de la liturgie, en faisant ce que l'Église nous demande, la beauté des chants et la beauté, une forme d'esthétique liturgique. Mais également, on travaille beaucoup la qualité de nos homélies, on espère qu'elles portent du fruit. Donc on prêche en série, notamment. Vous savez, il y a 52 dimanches dans l'année, je crois. Personne ne retient 52 homélies. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « j'ai retenu toutes les homélies de ma vie ». En revanche, on peut retenir une dizaine d'homélies dans l'année. Donc, c'est la raison pour laquelle on prêche en série. Donc, sur plusieurs dimanches de suite, on va prêcher sur le même thème. Là, pendant tout le carême, on a prêché sur le thème du retour au Père, à l'école des frères Karamazov de Dostoïevski et de la parabole du fils prodigue. Avant le carême, on a prêché sur une série qui s'appelait « Lumière des nations ». On a plongé sur ce que disait le Christ lorsqu'il disait « Vous êtes le sel de la terre et lumière pour le monde ». Et dans la suite de la fête de l'Épiphanie, pendant tout l'Avent, on a médité sur la promesse, donc les promesses christologiques dans l'Ancien Testament. Voilà, donc on prêche en série et ces séries se veulent à la fois bibliques, théologiques et existentielles. On veut rejoindre quelque chose que la génération vit à ce moment-là.
Pour conclure, parce qu'on arrive au terme de l'émission, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui nous écoutent là pour leur donner envie d'aller, ne serait-ce d'abord que frapper à la porte de la paroisse étudiante ?
Dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée Adam, Adam est profondément seul avant la création d'Ève. Et Dieu a fait ce constat et dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et il y a dans la révélation divine, la véritable réponse à cette phrase de Dieu n'est pas la création d'Ève. Enfin, bien sûr, la création d'Ève vient répondre à ce constat divin, mais je crois que la véritable réponse à ce constat de Dieu, c'est le moment de la Pentecôte, quand l'Esprit-Saint tombe sur les apôtres et crée, enfin, ou du moins manifeste dans le temps, l'Église à ce moment-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que l'homme est fait pour être en communion au sein de l'Église et vivre avec ses frères et sœurs chrétiens. Et on a besoin de ça. Et Tertullien disait « un chrétien seul est un chrétien en danger ». Donc si les jeunes auditeurs veulent s'approcher un peu plus du Christ, ils ne peuvent pas le faire sans l'Église. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le faire sans une communauté, sans de véritables amitiés. Et donc c'est sûr que ça demande beaucoup de courage d'aller frapper à la porte d'une Église qui a son vocabulaire, qui a son jargon, qui a ses codes. Mais l'Église, elle n'est que l'image du Christ qui a les bras grands ouverts sur la croix parce qu'il veut simplement accueillir l'humanité tout entière.
Frappez et on vous ouvrira. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je pense que chacun aura pu constater qu'il se passe vraiment beaucoup de choses à la paroisse étudiante de Toulouse. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à frapper à la porte. Vous y serez toujours bien accueillis et renseignés aussi. Merci infiniment à tous les quatre.
Merci
d'être venus nous présenter vos activités à la paroisse étudiante de Toulouse. Vous pouvez, je dis ça pour nos auditeurs, vous informer en vous connectant au site web de la paroisse. Il est très bien fait, très complet. www.étudiant-toulouse.catholique.fr. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Bon week-end de Pâques, à bientôt.
Semaine Sainte 2026.
Semaine Sainte 2026.